Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin. Jean-Pierre Andrevon, merci d'avoir accepté cette invitation dans le cadre du festival Fou d'Histoire. Peut-être que tout à l'heure, dans le cours de l'entretien, on dira quel lien il peut avoir, quel lien en tout cas vous voyez entre l'histoire et puis apparemment votre discipline, entre guillemets, favorite, qui est plutôt la science-fiction. Personnellement, je suis très heureux de vous accueillir parce que du temps très lointain où j'avais lu pendant une petite période de la science-fiction, comme tout le monde...
Avant la guerre de 14, non, quand même pas.
Pas tout à fait, pas tout à fait. Asimov, Bradbury, etc., Arthur C. Clarke. Chaque fois qu'on consultait une bibliographie, on avait le nom d'Andrevon qui apparaissait. Je suis persuadé
que... L'ordre alphabétique m'a toujours avantagé en plus, mais bon.
Et je suis persuadé que si je fouille dans mes vieux bouquins, je vais trouver un Présence de futur que j'ai pas lu. Et là, vous arrivez, donc ça m'a donné l'occasion enfin de découvrir un peu. Hein. Vous avez écrit 160 bouquins, je crois.
À peu près,
c'est ce que disent... Vous avez été professeur de dessin, journaliste, peintre, cinéaste. En tant qu'écrivain, vous avez publié de nombreux romans et nouvelles, la plupart liés à la science-fiction. Depuis quelque temps, vous écrivez des thrillers et des romans pour la jeunesse. En novembre 2013, vous avez publié 100 ans et plus de cinéma fantastique et de science-fiction, un dictionnaire qui propose plus de 5000 entrées. Est-ce qu'il vous arrive de prendre le temps de vous ennuyer ?
Non, pas du tout. Si j'écrivais pas, si je créais pas tout ce qui m'arrive de créer, c'est là où je m'ennuierais, effectivement. Ouais. Les mots comme vacances, retraite, tout ça ne font pas partie de mon vocabulaire. Et ça a toujours été le cas, en fait. Et vous dites, depuis quelque temps, non, j'ai toujours fait un peu tout, en fait. J'ai commencé peut-être un peu plus tardivement à écrire des thrillers, des trucs pour la jeunesse. J'en ai pas beaucoup écrit, mais c'est venu assez vite aussi. Donc oui, j'ai toujours essayé de sortir de mon cerveau en ébullition tout ce que je pouvais sortir avec le temps qui m'était donné. Les journées ont que 24 heures. Et parfois, c'est un petit peu dur de voilà.
Je n'ai pas lu un nombre suffisant de vos bouquins pour avoir une vision d'ensemble de votre œuvre. Mais des trois livres que j'ai pu lire, de science-fiction et un polar, plus un petit recueil de poèmes, j'ai envie de retenir une...
C'est un livre sur 160. Je vais m'en aller.
Non, je plaisante.
Il y en a qui n'en ont lu aucun, vous savez. Alors bon.
Oui, on a l'impression, même quand on n'en a lu que cinq, une jubilation à écrire qui est évidente, formidable. Vous êtes un formidable conteur d'histoire.
C'est gentil de me dire ça, oui. Je procède, si on peut dire vaguement, très rapidement comment je procède, les idées me viennent, d'où j'en sais rien, mais en tout cas elles viennent, et dès que j'ai une idée, dès que j'ai un thème d'une histoire à raconter, je le note au fur et à mesure sans l'écrire, ce qui fait que j'ai tout au cours de mon existence humaine et littéraire, j'ai accumulé beaucoup plus d'idées de romans ou de nouvelles à écrire que je n'en ai écrit réellement. Je veux dire par là que j'ai pas une idée, puis le texte suit. J'accumule, je mets ça dans des dossiers, dans des classeurs, dans des chemises. Et puis à un moment donné, je vais traiter celui-là, parce que le moment est venu. Voilà, c'est comme ça que je procède. Donc il se trouve que j'ai beaucoup plus d'histoires qui n'ont pas été écrites et qui ne seront jamais écrites, pleurer, lecteur, que d'histoires que j'ai réellement écrites. Quoi. Voilà. Voilà comment je procède.
Puisque vous démarrez là sur votre façon de travailler, quand vous commencez à écrire un bouquin qui fait plus de 600 pages, comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous démarrez, vous avez cette idée là dont vous venez de parler? Est-ce que vous avez un synopsis qui va vous permettre d'avoir un fil conducteur, et puis au fur et à mesure que les personnages vont apparaître...
Oui. Les idées, il y a d'abord l'idée de départ, qui est notée en quelques lignes, ou mettons une page sur une feuille de brouillon, comme ça. Puis je peux y revenir un mois après ou 6 ans après. Je complexifie, je trouve les personnages. Et puis à un moment donné, je me dis, bon, allez, je l'écris. Alors à ce moment-là, effectivement, je fais un vrai scénario, comme ce serait un scénario de cinéma, quoi. Presque chapitre sur chapitre, avec le déroulement de ce qui va se passer, les personnages, bien entendu, leur caractérisation plus ou moins sommaire. Et puis je me mets à écrire, quoi. Mais je connais l'histoire, même si, évidemment, dans les détails, dans les ingrédients, il y a des petites choses qui changent, forcément, au cours d'écriture. Mais je sais où je vais. Bon, je prends deux exemples simples. Si j'écris un roman policier, faut que je sache dès le départ qui est l'assassin, sinon je pourrais pas l'écrire. Si j'écris un roman de science-fiction qui se passe dans un futur plus ou moins lointain, que ce soit sur la Terre ou sur une autre planète, il faut que le cadre de vie, il faut que l'écologie, il faut que le système politique soit précis dans ma tête, sinon j'y arriverai pas. Donc voilà, donc j'écris avec un squelette très fortement charpenté. Et quand j'entends des confrères écrivains que je ne nommerai pas et à qui je ne le renvoie pas, disent « Ah non, non, moi j'écris spontanément, je ne sais jamais où je vais. » J'y crois pas, tout simplement. Mais voilà, c'est mon avis, hein. Que je partage ou pas, bien entendu.
Est-ce que quand même, tout au long de ce travail d'écriture, il vous arrive de vous laisser surprendre par vos personnages ? Est-ce que tout d'un coup, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu au départ qui apparaît et qui vous semble intéressant à creuser ?
Oui, toujours, mais ça vient dans le cours de l'écriture. Alors si c'est dans le cours d'une nouvelle de 20 pages, évidemment, c'est moins patent, mais si c'est un bouquin qui fait pas loin de 600 pages, ça arrive, oui. Il y a les personnages, je dirais pas qu'on leur vit propre, parce que leur personnage, c'est quand même moi, quoi. Mais ça dévie, où je me dis, ah ben non, au lieu de faire ça que j'avais prévu à l'avance, il ferait plutôt ça. Donc, il y a des petites différences, mais pas énormes, en réalité. Il m'arrive même, parfois, d'écrire le dernier chapitre, alors que j'ai pas fini le bouquin, pour bien savoir où je vais retomber, sur quel pied, quoi. Mais ce qui est intéressant, bon, c'est vrai que le sujet lui-même est intéressant dans un livre, mais c'est la manière dont il est construit, quoi, les personnages vivent, où ils vont, ce qu'ils font, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils disent. J'apporte beaucoup d'attention au dialogue, qui font vivre le livre et qui le font exister de manière, je sais pas si vous avez dit fluide, si c'est un adjectif que vous avez employé ou pas, mais enfin, c'est très important pour moi. Le dialogue que je dis, hein, je me confère pas, je me compare pas à Flaubert qui avait son gueuloir, mais je dis à tout haut, à haute voix, mes dialogues pour savoir s'ils tombent juste, quoi, parce que rien n'est plus irritant dans un roman que des dialogues qui ont l'air écrits, quoi, qui sont pas dits comme on les dirait en parlant avec comme ça l'un d'entre vous, voilà. Voilà comment je procède en gros. Bon, il y a des différences de détails, mais en gros, c'est ça, quoi.
Il vous faut combien de temps pour, venir à bout d'un gros bouquin ?
C'est...
Ça dépend.
Dépend de la longueur, ça dépend de la difficulté du texte. Il est plus difficile de faire un roman de science-fiction bien construit, parce qu'il y a tout un univers à recréer, qu'un roman polar, où, bon, si le sujet est écrit à l'avance, il suffit de le faire avancer. Mais c'est, je sais pas, un bouquin de 600 pages, il faut 6 à 8 mois, je dirais, quoi.
On va revenir sur la science-fiction, mais précisément ce livre-là, qui est ce polar, qui est sorti cette année.
Ouais, oui, il y a quelques semaines.
Voilà, je dirais. Ouais, ouais. 9 morts par quelques nuits d'hiver. Ouais. Donc, si je vous ai bien compris, vous l'avez écrit rapidement.
Ah, j'ai jamais dit ça. Non. J'ai mis, je sais pas, 5 ou 6 mois pour l'écrire.
Ouais.
D'après un scénario que j'ai peaufiné assez longuement, parce que l'intrigue est quand même assez complexe, et qui venait encore une fois d'un de ces fameux manuscrits, d'un de ces fameux synopsis ou scénarios que j'avais dans mes tiroirs. Et je me suis dit, bon, allez, c'est celui-là que... Parce que je voulais revenir au polar, effectivement. C'est pas que j'en ai marre de la science-fiction, mais j'en ai tellement écrit qu'une petite pause de temps en temps, ça fait pas de mal. Et donc j'ai tiré ce... Il y avait 2 ou 3 concurrents, si je peux dire, dans mes tiroirs. Il y en a un qui s'appelait l'île des morts, j'espère bien l'écrire, avant de mourir moi-même. Et donc voilà, ben, je l'ai écrit, quoi. Je sais pas ce que je peux dire plus, mais...
Mais on est finalement pas tellement surpris quand on passe de la science-fiction à ce polar, parce que déjà dans les autres romans, apparemment, vous avez quand même un sens de, comment dire, du suspense, tout simplement.
Je pense que ça vient du cinéma. Moi, j'ai été un spectateur, un amateur, un amoureux de cinéma dès mon plus jeune âge et ma plus tendre enfance, en voyant effectivement beaucoup de films de science-fiction, de policiers, de western, de films de cap et d'épée, tout ce que vous voulez. Donc je pense que mon sens du récit, à supposer que j'ai un sens du récit, vient de là, quoi. C'est-à-dire ne pas perdre de temps. Mmh. Voilà. Mmh. Aller de l'avant. Hein. Truffaut disait, un film, c'est un train qui fonce dans la nuit. Un roman, c'est un peu ça aussi. On doit arriver là où on veut aller, tout en remplissant chaque étape de manière la plus agréable possible à la lecture. Mais voilà, le pire, il y a beaucoup de choses qui sont pires dans un roman. Mais c'est de ne pas perdre le temps, c'est de ne pas s'égarer dans des digressions ou dans des... Je ne dis pas des descriptions, parce que c'est vrai que des descriptions, il y en a dans mes livres, qui viennent de ma formation primaire, qui n'est pas la littérature, mais qui est le dessin et la peinture, hein, puisque, comme vous l'avez dit, j'étais prof de dessin, j'ai fait les beaux-arts. Donc je pense avoir une imagination surtout visuelle, quoi. J'aime bien savoir où je suis, en fait, quoi. Si une scène se passe quelque part, ben, il faut savoir si l'herbe est verte ou si elle est desséchée, s'il y a des arbres à l'horizon, si le ciel est nuageux ou pas, si, voilà, si on a la sueur sur les tempes ou sous les bras, voilà. La psychologie m'intéresse pas trop, a priori. Une fois que les personnages sont posés, j'aime les intégrer à un décor qui est bien précis, quoi, pour qu'on ait l'impression, c'est très prétentieux ce que je veux dire, mais qu'on est dans un film, quoi, qu'on voit le film en lisant les pages, voilà.
Alors justement, ce qui concerne l'art du récit, bon là, vous avez fait mijoter une sauce qui est complexe à plaisir. On est quelque part quasiment en haute montagne, au-dessus de Termat, un vieil hôtel qui pourrait renaître de ses cendres. Il n'y a qu'une petite route qui donne accès. Il y a 9 personnages qui sont enfermés dans cet hôtel le temps d'une nuit. Il fait très froid, on ne peut pas sortir. Il y a plein de choses qui se passent, des bruits notamment. Là, vous y êtes allé. Et du coup, on marche pas en cours.
Ben, c'est un peu chez moi, quoi, en fait, enfin, en exagérant beaucoup. Moi, je ne suis pas à 2 km au sud de la vallée, je suis à 200 mètres seulement. Mais j'habite effectivement dans une grande vieille maison où il y a des bruits, où il y a une cave, comme ça. Avant, il y avait une chaudière au fioul qui se mettait tout le temps en panne. Donc, très précisément, je le réécris, je le réduplique dans mon roman. Oui. C'est ma façon de travailler, quoi. Je dis pas qu'il faut que j'y sois allé, quoi. Je suis jamais allé sur Mars, par exemple, mais bon, je prends un décor. Je prends un décor comme ça, qui est précis dans ma tête, mais qui, en principe, parfois, qui vient d'éléments disparates, mais qui existe réellement, quoi. Voilà. Ouais.
J'ai l'impression qu'il y a chez vous, bon, je vais employer un raccourci un peu sommaire, une sensibilité à tout ce qui est question d'environnement écologique, on va dire, pour faire court, assez forte. Hein, vous accordez une très grande attention à une apparente, je dis bien apparente, fragilité.
Elle n'est pas qu'apparente, elle est vraiment vécue.
Oui, mais en même temps...
Militante, je dirais.
Non.
Je fais partie de plusieurs associations.
Oui, non, je voulais dire une apparente fragilité de la nature. Puis après, on s'aperçoit, quand on poursuit l'histoire, que finalement, cette nature, si on lui rend sa liberté, entre guillemets, en fait, elle n'est pas si fragile que ça. Mais toujours est-il qu'il y a cette attention, dans les deux romans que j'ai lus, en tout cas, à l'importance de la nature.
Oui, c'est notre maison, hein. L'écologie, c'est la maison où on vit et qu'on est en train de saccager à l'envi, gravement. Et donc c'est vrai que depuis que j'ai découvert ça, dans les années 70, après le grand brouhaha, le grand chambardement de mai 68, auquel je me réfère souvent, et sur lequel on crache à l'envi maintenant. Voilà, j'ai découvert l'écologie, bon, à travers des tas de livres comme ça, du Boss, le Printemps silencieux de Rachel Carson, etc. Et je me suis rendu compte peu à peu que, voilà, on n'a qu'une seule maison, c'est la Terre, on ne va pas y échapper, sauf dans la science-fiction, mais ça, voilà, ça reste du domaine du culturel, et ce qu'on fait est très grave, quoi. Donc c'est pour ça que j'y accorde de plus en plus de place, je crois, avec une vision, je dirais pas pessimiste, ce qu'on me colle sur le dos souvent. Je ne suis pas pessimiste, je suis lucide. Les faits sont là, les chiffres sont là. Et si on veut les ignorer, si on fait l'autruche, tant pis, hein, tant pis pour nous tous. Donc voilà. Et donc j'ai écrit un des romans que vous n'avez pas lu, mais que vous allez lire, qui s'appelle Le Monde.
Je vous prie de m'en excuser.
Qui s'appelle Le Monde Enfin, qui est là. Et effectivement, où je décris... Ah ben d'accord, ah, ah ben oui, alors super, non, vous êtes pardonné. Ah ben très bien.
Oui,
alors, voilà. Où je décris effectivement la fin de l'humanité, parce que la seule façon de sauver la Terre, c'est que l'humanité disparaisse, quoi. Enfin, là, il reste quelques personnes, pas beaucoup. Trois couples sur 7 oui. milliards d'individus, oui. c'est pas énorme, enfin, oui. voilà. Ça permet à la Terre de reverdir et de perdurer, quoi. Ouais.
Alors, justement, quand on lit ce bouquin, un petit peu moins celui-là, mais on a l'impression que vous connaissez tous les animaux. Tous les insectes, moi je suis impressionné.
Bah, je sais pas, il y a Wikipédia qui est bien utile parfois. Mais non, mais j'ai toujours été passionné, amoureux des animaux, si je peux dire passionné des animaux. J'ai toujours vécu des chats, par exemple, et avec des oiseaux autour que les chats mangent, mais ça c'est la nature. Les insectes aussi, quand j'étais petit, alors j'ai honte de le dire, je les collectionnais, je les piquais sur une planche, puis je me suis vite rendu compte que c'était les tuer de faire ça, donc j'ai cessé. Mais oui, oui, ben les insectes, les animaux font partie de la nature en général, sont partie intégrante de la nature. Donc, je m'y intéresse tout particulièrement. Oui, tout ce qui bouge, tout ce qui, voilà. Les animaux, c'est une joie perpétuelle. C'est tellement divers, hein. Quel rapport on a avec un lézard, avec une araignée, avec un oiseau, avec, je veux dire, tout le monde entier est là, quoi. Voilà, on peut le toucher. Donc, voilà. Donc, j'essaye aussi de mettre ça dans mes romans, parce que tout ce que je mets dans mes romans, c'est moi, quoi, vraiment, quoi. Je pourrais pas m'égarer ailleurs que dans l'univers où je vis moi-même, quoi. Ouais. On le reproche parfois, tu vois, si tu dis toujours la même chose, t'es trop pessimiste, gna gna gna, ben je m'en fous, j'écris ce que je suis.
C'est le vent d'hiver, mon frère, qui vient pour geler tes derniers quintaux de blé. C'est le vent d'hiver qui vient te désoler. Toc, 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 qui cogne au volet. C'est le vent d'hiver dans l'air venu déverser charreté d'obscénité. C'est le vent d'hiver piaffant de te narguer. Cogne au vitrail, c'est le vent d'hiver compère qui vaille que vaille, vient incendier le poitrail, c'est le vent d'hiver venu pour t'enfiévrer. Toc, 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 qui frappe au carreau, c'est le vent d'hiver corsaire flanqué de corbeaux, qui n'en veut le catapult, lui qui tant espère te bouffer par morceaux. Est mort. C'est ce vent d'hiver d'enfer pour qui n'est plus temps de tergiverser encore. C'est le vent d'hiver te laissant roi des morts. Toc, 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 qui vient là, plus rien. Car le vent d'hiver dans l'air, une fois pris son bien, ne traîne pas en chemin. Car le vent d'hiver, l'hiver a toujours faim. Toc, 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 toc.
Nous venons d'entendre « C'est le vent d'hiver » par Jean-Pierre Andrevon, qui a aussi une grande admiration pour les deux B, comme il dit, Brassens et Brel, et aussi pour Félix Leclerc. Vous êtes bien sûr Couleur FM 97.1.
Dans Le Monde Enfin, réédité chez Pocket, vous racontez l'histoire d'une pandémie
oui.
qui a fait disparaître la presque totalité, vous venez de le dire, hein, de tous les habitants de la planète. Quelques-uns, cependant, ne sont pas morts, mais du coup, ils se retrouvent étonnamment seuls, et parmi eux, c'est un des très beaux passages du bouquin, enfin, selon moi, il y a une femme qui un jour se rend compte que peut-être elle va pouvoir de nouveau enfanter. C'est un passage très émouvant parce que dans ce monde où ceux qui restent risquent de sombrer dans la folie parce qu'ils sont seuls, une femme se met à rêver, avoir un enfant, la vie pourrait renaître.
Oui, ça fait partie des... Je ne sais pas d'où m'est venue la nouvelle, le fragment de roman où la nouvelle s'appelle « La tigresse de Malaisie ». Parce que j'avais lu, effectivement, sur je ne sais plus quelle revue ou ouvrage écologique, qu'il restait si peu de tigres en Malaisie, l'espèce ayant exterminée par le braconnage notamment, qu'une tigresse pouvait passer toute sa vie sans rencontrer un mâle en Malaisie, et donc ne pas avoir d'enfant. Donc ça m'a donné l'idée de transposer l'histoire de la tigresse envers une femme qui approche de la ménopause, qui attend chaque mois désespérément ses règles. Et puis, bon, je ne vais pas raconter la suite. Voilà, ça fait partie des couples ou des personnages solitaires, que je ne dis pas que je voulais sauver, mais qui permettaient à l'histoire de continuer dans un monde qui, évidemment, s'il n'y avait plus personne, il n'y aurait pas d'histoire. Ou alors, ça serait juste une nouvelle sur les animaux. Et puis, il y a un militaire qui a été mis en hibernation pour échapper, justement, à l'épidémie, puis qui se réveille dans un environnement qu'il ne comprend plus du tout. Voilà, il y a mon héros principal qui est échappé parce qu'il est immunisé et qui traverse la France à cheval, là, qu'il est devenu vieux, tout ça. Il y a un personnage un peu bizarre, une femme qui est peut-être une manifestation extraterrestre, je laisse planer le doute jusqu'à la fin, pour que la Terre revive de manière plus sage et en tout cas plus progressive, et avec 6 personnes, la surpopulation ne menace pas trop récemment, trop vite, quoi, voilà. Mais j'avoue que c'est vraiment, si j'avais un livre à emporter sur une île déserte, ou si quelqu'un partait avec un livre de moi sur une île déserte, ça serait celui-là, parce que j'ai mis 30 ans pour l'écrire, non pas en continu, mais j'ai écrit des textes, puis un autre texte, puis un autre texte, puis après je les ai assemblés en les réécrivant en partie pour que ça soit, il y ait une suite logique.
Mmh. Oui, je confirme, donc j'ai pas lu les autres, mais celui-là est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. On tourne les pages. Bon, et puis c'est vrai, vous avez une capacité à rendre vivant tout ce que vous racontez, donc pas seulement les humains, les quelques-uns qui restent, mais la nature, l'environnement, etc., etc. On va y revenir. Mais j'aimerais justement que vous demander de nous lire un passage du Monde Enfin. Ce passage où le vieux cavalier, le vieux bonhomme dont vous venez de parler, qui traverse la France pour aller rejoindre la mer, ouais. Il rencontre, c'est vous qui l'appelez ainsi, à Valence, une vieille folle.
Oui, oui. Traversant l'Isère par le vieux pont de pierre joignant Romans à la ville jumelle de Bourg-le-Péage, le cavalier salua au passage un pêcheur unijambiste qui, assis, coincé plutôt dans une brèche du parapet, laissait pendre dans le torrent apaisé une ligne flageolante. Le pêcheur lui rendit son salut sans mot dire. Son visage buriné et figé évoquait Buster Keaton dans les dernières années de sa vie, surtout que l'homme portait un chapeau plat, très semblable à celui qui avait caractérisé le génial comique à la figure de pierre. C'était donc la troisième personne que le voyageur rencontrait en 2 jours. Après de si longues semaines sans voir quiconque, ce fut pour lui, brusquement, comme s'il y avait foule. Sa 4e rencontre fut la folle de Valence. Il la découvrit sur le quai de la gare où il était allé rôder avant la tombée de la nuit pour satisfaire à cet intérêt toujours vivace, inspecter les trains en rade avec le fol espoir destiné à rester inassouvi de pouvoir remettre en marche une locomotive à vapeur et faire au moins 1 kilomètre ou 2 à faible allure sur les rails envahis d'herbe. La folle de Valence se tenait au bord du quai fendillé, agitant mécaniquement les bras. Elle portait régulièrement un sifflet imaginaire à ses lèvres, puis lançait ses annonces d'une voix aigrelette, mais curieusement affirmée. « Messieurs les voyageurs, pour les directions de Montélimar, Pierre Latorange, Avignon, en voiture s'il vous plaît !» Elle faisait mine de siffler, ajoutait « Attention au départ, veuillez fermer les portières !» Le cavalier avait laissé son cheval à l'extérieur de la gare. Intrigué, il s'approcha de la folle. Il s'agissait d'une très vieille femme, très vieille même pour ce monde de vieux, 100 ans, peut-être plus. Une maladie du cuir chevelu, ou tout simplement l'âge et le manque de soins, avait fait disparaître tous ses cheveux. Son visage n'était qu'un entrelac compliqué de rides que la crasse avait transformé en crevasses noires et précises, comme autant de hachures à l'eau forte. Elle était entièrement nue. Son corps squelettique, au ventre bombé, hérissé vers le bas de poils gris d'une longueur surprenante, était dans un incroyable état de saleté, même pour le cavalier qui n'était pourtant guère regardant sur l'hygiène corporelle. Ses jambes, particulièrement, étaient recouvertes jusqu'aux genoux d'un enduit brun-noir qui avait séché, formant sur sa peau une carapace chitineuse donnant à ses mollets un aspect de patte d'insecte. Lorsque le voyageur s'approcha, Il fut submergé par son odeur, crasse, sueur, pisse et merde. La folle ne parut aucunement s'apercevoir de sa présence. Elle psalmodiait « Le train express en provenance de Barcelone, Cervère, Perpignan, Narbonne, Béziers, 7 Montpellier, Nîmes va entrer en gare au quai numéro 2. Veillez, s'il vous plaît, vous éloigner de la bordure du quai. » Le voyageur crut d'abord qu'elle était aveugle, mais il se rendit compte de son erreur lorsque les deux petits yeux de la folle se fixèrent sur lui, gris, clair, vif, perçant, non pour l'évaluer en tant qu'être humain, mais seulement comme un objet impromptu apparu dans leur champ de vision. Il voulut lui parler, mais avant qu'une phrase cohérente ait pu se former dans son esprit, la folle avait repris le cours de sa litanie. « Valence, Valence, 27 minutes d'arrêt, buffet gastronomique à votre disposition au quai numéro 5. Correspondance pour Vienne, Lyon, Villefranche-sur-Saône, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Chagny, Beaune et Dijon, Paris, à 19h58 au quai numéro 3. » Le voyageur eut un mouvement de la tête vers l'extrémité du quai, comme si c'était attendu à voir arriver dans la perspective violette un train empanaché qui n'aurait pas surgi de l'espace, mais du temps. Sous son regard trouble, les rails étaient engorgés de folle avoine. De vieux wagons rouillés bouchaient le périmètre de triage déjà envahi par de jeunes arbres, et une partie des auvents de béton s'était effondrée dans les broussailles devant le périmètre de la maison de la presse, au rideau de fer méticuleusement baissé.
La première fois que je la croise, c'est au milieu de la rue chenoise, robe noire et cheveux répandus, mais à peine l'avais-je aperçu que l'avait pris la fille de l'air. J'ai fait toute l'avenue Colbert, rue des Potiers, chaque boutique, avec pour résultat pernique. Il a fallu plusieurs semaines pour qu'au bout de la rue Turenne, je vois son reflet dans une vitrine. Je me retourne, elle se débine. Je cherche dans tous les magasins chaussures et dessous féminins. Je fais même les banques, mais elle a fui. Ça sera pas pour aujourd'hui. Abattre, abattre le pavé, j'en use le cuir de mes souliers. À faire des angles, tourner en rond, j'ai des vertiges autour du front. Qui donc est-elle, que me veut-elle, cette anguille, cette gazelle, qui se défile dès qu'elle me voit, comme la souris devant le chat. J'ai fait la place Victor Hugo, traîné sur le boulevard Marengo, le pied de grue sur le mêle aux herbes, arpenté 10 fois le cours Malherbe. J'ai même fait le quartier aux putes, sans la voir y jouer des flûtes. Je cherche encore rue de Béthune, autant vouloir attraper la lune. J'ai chopé 10 crèves en janvier et 2 ampoules plein les pieds. Sans voir c'est moi qui se dévide, s'additionnant en année bien vide. Ou bien plucher sur ma toison, de la neige en toute saison. Ou bien peser dessus mes reins, le désarroi et le chagrin. Enfin usé, perclu, courbé, clopinant boulevard chebé. J'en crois pas mes verres de lunettes, mais j'en veux sous les castagnettes. Qui j'aperçois sur le trottoir, cette longue silhouette noire. C'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, sur mes épaules poussent des ailes. À l'instant de goûter au bonheur, j'ai senti comme un froid au cœur. J'avais pas vu la grande faux qu'elle tenait cachée dans son dos. J'ai compris que cette machiavélique qui m'a fait d'un coup sans réplique pour l'éternité son amant, c'était la mort, tout simplement, c'était ma mort, tout simplement.
Vous êtes bien dans Au fil des arts sur 97.1 Couleur FM. Nous venons d'entendre La première fois, toujours par Jean-Pierre Andrevon. À noter qu'il vient de sortir son 4e CD et qu'il prépare un coffret de ses 4 CD.
Dans ce bouquin, il y a plein de... Je n'ai pas trouvé l'autre mot, mais pour moi, ce n'est pas péjoratif. Il y a plein de trouvailles. Bon, les crocodiles dans la Seine, les éléphants qui repoussent sur la place de la Concorde tous les véhicules qui les gênent un petit peu. Bon,
parce que dans un texte précédent, il y a les cavaliers encore jeunes qui, avec deux enfants qu'il a rencontrés, va simplement ouvrir toutes les cages du zoo de Vincennes pour libérer les animaux.
Démarre, là.
Un vieux fantasme que je n'ai jamais pu mettre en pratique, mais j'aimerais bien.
Il y a un autre, enfin, il y en a plusieurs, hein, mais il y a un autre passage que j'aime beaucoup, c'est celui qui est consacré à l'éducation de la petite fille. Une mère et une fille qui se retrouvent prisonnières dans un sous-sol d'un ancien supermarché. Il y a eu des éboulements, etc., etc. Bon, c'est plutôt une cave dans l'état actuel où elle la trouve. Et vous racontez comment cette mère s'y prend pour apprendre à sa fille les mots, le langage, avec une... difficulté particulière, c'est qu'une partie importante de ces mots évoque des objets qui n'existent plus ou qu'elles ne peuvent pas voir parce qu'elles sont emprisonnées. Je vais juste lire un paragraphe parce que ça me semble... J'aime beaucoup. La vie en dehors des sensations agréables ou désagréables, c'était donc avant tout les mots issus de la bouche aux odeurs. Des mots. Les mots désignaient les choses visibles ou invisibles. Les choses visibles étaient de deux sortes, celles qu'il était possible de voir et de toucher à l'intérieur de la cave, et celles que la femme se bornait à lui montrer du doigt sur des rectangles de papier. Ce qui se rapportait à l'invisible était néanmoins le plus important, puisque ces choses-là étaient ressenties à l'intérieur du corps, la faim, le froid, le mal au ventre, 10 autres choses. Mais aussi des choses plus indéfinissables encore, comme la peur, la tristesse, l'étonnement, l'angoisse, la joie, 100 autres choses. Il existait tant de choses, visibles ou invisibles, et tant de mots pour les dire.
Oui, peut-être.
Ah oui, parce que bon, non, c'est la fonction primordiale, c'est le langage. Et là,
Oui, effectivement, je me suis demandé comment une mère, qui commence à être un peu folle d'ailleurs, j'aime bien les folles, faut croire, et sa fille peuvent survivre, non pas en mangeant, parce qu'effectivement, ils sont dans les caves d'un supermarché, il y a encore plein de conserves et tout. Mais comment on acquiert le langage, la culture, le l'être, quoi, si on peut dire, quoi, oui. Et comme d'habitude, j'ai bien insisté sur tout ce qui est physique, quoi, je veux dire, le toucher, les odeurs, le froid, la chaleur, enfin, tout ce qui fait qu'on est, quoi, parce qu'on est des créatures vivantes avec tout ce que ça comporte, des animaux, hein. Qui se croyons supérieurs, ben voilà. Et c'est ça que j'aime, en fait, et ça choque souvent beaucoup de gens quand je parle, de pisse ou de merde. Bon. Et pourtant, ça fait partie de notre vie quotidienne.
Et du coup, ces mots, la plupart des bouquins, ils sont collés par l'humidité, mais dans cette espèce d'ancien sous-sol d'un supermarché Leclerc, je crois, y en a quelques-uns qu'on peut encore regarder. Il y a des bouquins illustrés. Et c'est très difficile pour cette mère de faire comprendre à sa fille, qui est fascinée par les avions, mais qui ne peut pas imaginer ce que c'est.
Elle ne peut pas le voir, bien sûr. Oui, je pense que c'est aussi des souvenirs d'enfance. Hein. Comme beaucoup, j'ai appris à lire, non pas à l'école, mais ma mère m'a appris à lire avec des comme ça. D'abord des bouquins, effectivement, des abécédaires illustrés. Et puis après, dans Tintin, dans les albums de Tintin. J'ai appris à lire avec Tintin, c'est une bonne école.
On peut continuer ?
Ah, mais bien sûr.
Oui. Bon, on va parler, on va dire deux mots de la maison qui glissait. Vous racontez une tour de 14 étages, je crois, dans une grande ville, on ne sait pas laquelle. Et soudain, un matin, à 7 heures, ce bâtiment est tout d'un coup entouré d'un voile épais, très lumineux. Et petit à petit, on ne va pas raconter l'histoire, mais les occupants de cet immeuble se rendent compte qu'ils sont totalement isolés du monde. Ils savent ni pourquoi, ni comment, mais il y a ce voile de brume épais. Et alors, il n'y a plus d'électricité. Bientôt, l'eau va s'épuiser. Les moteurs des voitures dans le parking en bas ne démarrent pas. Puis il y a un tas de petits phénomènes plus ou moins inquiétants qui augmentent l'angoisse des habitants. Là, on sent toujours votre préoccupation au phénomène naturel ou provoqué, mais bon, qui ont une apparence de naturel. Mais là, il y a un côté un petit peu moraliste, on dirait. Moraliste au bon sens du mot, au sens un petit peu 18e. Vous racontez l'éthique des gens, leurs petits travers. Ça c'est formidablement bien écrit.
Oui, je sais plus exactement ce qui m'a donné l'idée de ça. Sans doute ma claustrophobie personnelle, quoi, la peur de me retrouver enfermé quelque part sans pouvoir en sortir ou d'être perdu dans un environnement étranger. Je fais souvent des rêves comme ça, en fait. Et c'est un bouquin un petit peu particulier parce qu'effectivement, il y a plein de personnages, hein, des dizaines, alors que la plupart du temps, dans mes autres bouquins, il y a un personnage, deux ou trois autres, un couple, le dernier couple survivant, etc. Et là, effectivement, c'est ma préoccupation sociale, de savoir comment les gens vivent. Alors j'ai mis, effectivement, un prof retraité, un jeune type qui est triste parce que sa petite amie l'a quitté, un flic maghrébin mais qui veut pas dire qu'il est flic pour pas être attaqué par les trublions de des tas de gens comme ça, des islamistes intégristes, des catholiques intégristes, un gardien un peu Front National avec son chien là, une accumulation de clichés si on veut, mais voulu comme tel, quoi. Essayer de recréer quels sont les gens qui habitent, les 50 ou 100 personnes qui habitent dans une tour, quoi. Il y a de tout. Alors là, c'est un peu, j'ai fait une petite enquête comme ça, j'ai visité des sites, je suis allé me balader dans les cités autour de Grenoble, je suis monté dans les étages pour voir où on aboutissait, j'ai noté des noms sur les boîtes aux lettres pour savoir, voilà, j'ai fait comme ça, quoi. J'ai fait presque une petite enquête pour donner encore une fois ce côté réaliste qui m'est indispensable. Et alors il y a deux choses que j'ai mis dans ce bouquin. Encore une fois, ça n'a rien de théorique, c'était le cheminement normal de l'écriture, c'est les rapports de ces gens entre eux. Il y en a qui lient des liens de solidarité, d'autres qui commencent à se bagarrer, et même à se tuer, parce qu'il y a des morts, des histoires sentimentales, des histoires sexuelles, des partouzes, hein, des gens qui aiment ça. Et puis, effectivement, le fait que qu'est-ce qu'on devient quand il n'y a plus rien, quoi. Si l'électricité cessait, Barjavel l'a dit mieux que moi, en 48 heures, tout s'effondrerait, tout. On n'aurait plus d'eau potable, il n'y aurait plus de courant, il n'y aurait plus de frigidaire, il n'y aurait plus de téléphone, il n'y aurait plus rien. La civilisation s'effondrerait en 48 heures. Donc j'ai voulu un petit peu faire peur en décrivant ça dans le cadre au lieu de prendre un cadre terrestre, comme je l'avais fait dans de nombreux autres bouquins, j'ai pris cette tour avec ses habitants en l'isolant complètement par, bon, il y a une explication un petit peu vaseuse à la fin, mais enfin il y a une explication quand même, et à la fin il n'y a plus que, je sais pas, un seul survivant. Pareil, c'est un thème récurrent chez moi, un fantasme là aussi, voilà.
C'est un très beau livre.
Merci.
Non, c'est vrai. Alors quand même, on est dans le cadre d'un festival du livre d'histoire. En lisant vos deux bouquins, je me suis demandé si on ne pourrait pas considérer que la science-fiction est un peu comme une métaphore de l'histoire, qui, à sa manière, nous dit un peu le monde comme il va.
Oui, tout à fait. Je crois que si on n'était pas un passionné d'histoire, si on n'était pas en tout cas un connaisseur d'histoire, de l'histoire avec un grand H, on ne pourrait pas écrire la science-fiction, parce que la science-fiction, c'est des fragments d'histoire du futur qu'on essaye de rendre aussi crédible que l'histoire qu'on a déjà connue, quoi, hein. Alors je reviens au cinéma, effectivement, je voyais beaucoup de films d'action, mais dans ces films d'action, il y avait beaucoup de films historiques, hein, que ce soit sur la guerre de 100 ans, ou les croisades, ou Napoléon, ou ce qu'on voudra, la conquête de l'Ouest, etc. La découverte du Nouveau Monde, bref, toute l'histoire jusqu'au plus lointain passé, Rome, beaucoup de films sur Rome. Et tout ça me passionnait. Je pense qu'en partie, seulement, c'est difficile de le préciser maintenant, mais mon goût pour écrire des histoires de science-fiction crédibles, je dis bien crédibles, hein, pas des histoires qui se passent loin dans l'espace et dans des milliers d'années, ça vient de mon intérêt, de mon goût pour l'histoire qui m'a jamais quitté. Je lis beaucoup de bouquins sur l'histoire, sur diverses périodes d'histoire. Certaines m'intéressent plus que d'autres. Et c'est un scoop sans importance, mais je suis en train d'écrire, de finir d'écrire. Je suis en retard, d'où ma présence ici un peu rapide. Un bouquin sur l'histoire, les guerres vues par le cinéma. Depuis la guerre de Troie jusqu'à l'Irak et l'Afghanistan. Quoi, voilà. En prenant tous les principaux films qui traitent de la guerre, suivant les époques, suivant les pays, on la traite évidemment différemment. Quoi. C'est une très bonne école. Je crois que ma meilleure école, en fait, c'est le cinéma, puisqu'on peut y trouver tout. Quoi. Donc, effectivement, le lien est évident entre l'histoire qu'on a vécue ou qu'on vient de vivre, et puis l'histoire du film. Il suffit de se décaler un petit peu. Hein, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la guerre entre qui et quoi, entre l'Inde et le Pakistan, la Corée du Nord, ou la Russie, on ne sait pas, Daesh, on ne sait pas. Donc voilà, donc cette espèce, une espèce de suite logique, quoi, essayer de prolonger l'histoire qu'on a connue par une histoire, encore une fois, qu'on ne connaîtra pas ou dont on connaîtra les prémices, mais que je veux, encore une fois, le plus réaliste possible, quoi. Mais c'est vrai que c'est souvent l'écologie qui me motive au premier plan plus que les conflits entre nations, quoi. Enfin, bon, même si j'ai écrit pas mal de trucs sur la guerre atomique au temps où ça paraissait dans les années 70, c'est une possibilité effrayante.
C'est quoi pour vous, c'est qui vos auteurs préférés dans le domaine où vous excellez, par exemple
Je mettrai que mes deux coups de pouce, et ça va pas vous étonner, c'est Barjavel et Bradbury, quoi, parce qu'ils ont ils se sont intéressés à l'humain à travers la science-fiction, et en ce qui concerne Barjavel, mais Bradbury aussi d'ailleurs, l'importance de la nature, l'écologie, hein, c'est le premier bouquin de Barjavel, c'est Ravage, où encore une fois toute l'énergie s'effondre et qu'on revient à une vie pastorale, c'est pas étonnant. Alors le malheur, c'est qu'il l'écrit en 43. Retour à la nature, ça faisait un peu pétain, lui reprocher ça par la suite, parce qu'il est idiot, quoi. Barjavel a toujours été un amoureux de la nature et un grand écologiste. J'ai eu la chance de le connaître et d'être presque ami avec lui. Et bon, c'était un père, un grand oncle, un père pour moi. Et Bradbury, pareil, quoi. Je veux dire, Bradbury avec deux livres majeurs, les chroniques martiennes, qui sont une espèce de coupe transversale sur la colonisation, le génocide, l'ethnocide, hein, les blancs avec quelque part, ils tuent tout le monde, quoi, tout simplement. Soit à coup de fusil, soit avec les virus qu'ils amènent avec eux, etc. Et puis Fahrenheit 451, là c'est le règne de la censure, hein, censure des bouquins, censure des mots, des idées, enfin là, voilà, je crois que On pourrait presque plus rien écrire après avoir lu ces deux romans de Bradbury, quoi, et quelques Barjavel. Mais bon, ça a été mon inspiration première, comme beaucoup d'auteurs américains, peut-être moins parlant par les gens qui ne sont pas habitués à la science-fiction, comme Robert Silverberg, par exemple, qui est un auteur qui a écrit beaucoup plus de livres que moi, donc c'est dire. Et qui a exploré toutes les facettes de la science-fiction, encore une fois, dans une optique très humaine, très politique. Hein. C'est un auteur juif new-yorkais par excellence, Silverberg. Il a cet humour acéré qu'a Philippe Roth, par exemple. Et il a écrit notamment un bouquin qui s'appelle « Soleil chaud de minuit », qui est effectivement sur l'effet de serre. Hein, et c'est un bouquin qu'il a écrit il y a 25 ans, quoi, il ne l'a pas écrit avant-hier. Hein. Voilà, Robert Silverberg, non, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment très bien.
Est-ce qu'on peut donner une définition de la science-fiction, ou est-ce qu'il y a quand même des univers tellement différents, divers, parfois éloignés, que c'est pas possible?
Oui, c'est très difficile, j'aime pas les définitions, ouais. Déjà, hein, c'est un étiquetage que j'aime pas. La science-fiction, on peut dire peut-être que c'est le futur qu'on croit pouvoir se réaliser, je veux dire à peu près, quoi, hein, à condition de rester dans un futur atteignable, mettons le siècle, le demi-siècle. Et puis il y a la science-fiction qui va dans les étoiles, hein, qui se passe dans des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, avec les empires galactiques, comme on voit chez Asimov, effectivement, dans la guerre des étoiles, et qui là est pure fiction, sans véritable science, parce que la science, en tout cas, telle qu'elle est présente aujourd'hui chez nous, ne nous permettra probablement jamais d'aller dans les étoiles. On découvre des exoplanètes à foison, mais il faudrait en gros 50 000 ans pour y aller. Quoi. On serait vraiment vieux en arrivant. Hein. Donc, il faut pas compter là-dessus pour nous sauver, pour se sauver. On ne peut sauver que la Terre et on prend un très mauvais chemin. Quoi. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire.
Cendre sur les toits du matin, lorsque la dernière putain va se coucher de guerre lasse, l'aube efface d'un jour déteint les réverbères dans les glaces. Les hommes de ciel et debout portent à leurs yeux de hibou la suie et la sueur des paumes. Par le square aux dormeurs debout, un instant la fatigue chôme. Dans ce petit soleil absent, pour qui ce temple renaissant, Alexandrie ou Rome, Athènes, des deux charniers des innocents, il n'est resté qu'une fontaine. Depuis bientôt 400 ans, figure qu'on voit l'eau puisante, pourquoi font-elles simulacre d'attendre ici leurs courtisans? Revoici le temps des massacres. Paysannes sans horizon, à la margelle des maisons, Samaritaines idéales, marchandes des quatre saisons, nymphes que hâle l'air des halles. Ici la rue à goût de sang, où sur des diables les bœufs sang vont fleurir l'ombre par centaines. Des deux charniers les innocents, il n'est resté qu'une fontaine. Étrange tour de nos tourments, il faut bâtir un monument en qui survivent nos batailles, dans le marbre éternellement, et que Paris trouve à sa taille, à la taille de ses barreaux, à la taille de ses bourreaux, le monument à la gloire de nos héros, à la gloire de notre gloire. Arche du ciel, marche dansant, la nuit qui poursuit les passants, alors redevient châtaine. Des deux charniers des innocents, il n'est resté qu'une fontaine. Arche, fontaine ou mausolée, le monument dont j'ai parlé emprunte aux ailes du martyr les frémissantes envolées des Marseillaises grandeur nature. Nos cris seront les plus puissants, l'avenir en garde l'accent. Parfum perdu et ne lointaine, des deux charniers des innocents, il n'est resté qu'une fontaine.
Toujours sur Couleur FM, nous venons d'entendre Le Charnier des Innocents par Jean-Pierre Andrevon.
Alors j'ai eu la surprise en préparant cet entretien de voir qu'on vous trouve, y compris sur YouTube.
Ah oui, je... Non, je regarde pas ça. Moi,
non,
pas...
mais vous chantez.
Ah, je chante.
Oui. Bah oui.
Ah, je chante. Oui. Malheureusement. Non, je plaisante parce que j'adore. C'est une Ben, j'ai pas pris ma guitare, on m'a pas dit amène ta guitare.
J'aurais dû.
Ouais. Alors, ça peut vous surprendre puisque vous vous attendez à rencontrer un auteur de science-fiction, mais la première discipline créatrice que j'ai pratiquée, c'est vraiment la chanson.
Ah oui.
J'ai acheté ma première guitare, j'étais encore au lycée, j'avais une quinzaine d'années, et j'écoutais Brel et Brassens, les deux grands B, et je chantais leurs chansons, et puis très vite, j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Et j'ai jamais cessé, en fait, quoi. J'ai jamais cessé. C'est pour ça que j'ai autant ou plus de chansons que de livres. Et c'est resté quelque chose qui était confiné à mes copains, quoi, à mes amis, tout ça, mes proches. Et puis j'ai rencontré, il y a une dizaine d'années, un jeune musicien qui m'a dit « Mais écoute, il faut faire quelque chose avec tes chansons, gna. » Et c'est là qu'on a commencé, puisque maintenant les moyens techniques sont très faciles. On peut faire ça chez soi avec un ordinateur, un enregistreur. J'ai commencé à enregistrer mes chansons pour qu'elles restent, quoi, pour qu'il y en ait des traces. Mm-hmm. Et donc j'ai donc produit 4 CD, le cinquième va sortir avant la fin de l'année, qui regroupe en tout 70 chansons, quoi, voilà. J'aurais dû amener aussi, mais j'ai pas prévu, quoi.
J'y ai pas pensé non plus.
Bon, c'est pas grave, la prochaine fois. Mm-hmm. Ouais. Ou alors par YouTube, vous les trouvez, les commandez.
Voilà. Je sais pas, on a vu quelques poules, vous voyez qu'après ça, on n'est pas trop méchant. Hein. Apparemment, elles se portent bien.
Ouais, voilà.
Elles viennent même nous rendre visite.
D'accord. Si c'est pour les œufs, ok. Si c'est pour les manger, gaffe.
Non. Parlez-nous un petit peu de cette encyclopédie du cinéma fantastique et de science-fiction. C'est un truc colossal, quand même. Qu'apparemment, vous avez réalisé beaucoup vous-même avec une équipe réduite et 5000 entrées. C'est fabuleux.
C'est une idée qui m'est venue comme ça il y a plus de 10 ans, puisque j'ai à peu près mis 10 ans pour l'écrire. Entre autres activités, sans prétention là encore, j'ai presque toujours pratiqué la critique de cinéma, puisque j'allais beaucoup au cinéma, j'aime le cinéma. J'ai commencé à écrire dans des journaux étudiants, puis après dans Fiction, qui était la grande revue de science-fiction de l'époque, puis après dans L'Écran Fantastique à sa création, où je collabore toujours, bref. Bref, je me suis retrouvé avec des centaines et des centaines d'articles sur le cinéma, et il est arrivé un moment où je me suis dit, mais là encore, comme les chansons, ça va être perdu, quoi, à ma mort. Alors je me suis dit, on va faire un bouquin, je vais les réunir dans un bouquin, quoi, donc voilà. Et puis j'ai commencé, sans savoir où j'allais, et puis après, je me suis dit, mais les critiques, ça suffit pas, je vais faire des notices sur les principaux réalisateurs, puis aussi sur les acteurs et les techniciens. Et comme je me suis dit, j'y arriverai pas tout seul, j'ai réuni effectivement une petite équipe autour de moi, des gens qui sont dans la majorité des rédacteurs de L'Écran Fantastique également. Et puis le bouquin a avancé comme ça, quoi, entre deux romans, entre deux nouvelles. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un éditeur, le Rouge Profond, qui a été séduit et qui l'a édité. Et voilà, quoi, c'est tout simple. C'est un bouquin qui s'est fait de manière assez parcellaire et étagée, mais que j'ai réuni. Et je suis très content de ce bouquin, non pas parce que je l'ai écrit, mais de la façon dont il a été fait, quoi. Il n'est pas là. C'est vraiment un bouquin magnifique, splendidement illustré, très bien mis en page, qui pèse 4,6 kg et qui fait plus de 1000 pages. Donc voilà, non, j'ai pas grand chose à en dire, en fait, mais c'est la suite logique de ce que j'essaye de, en vieillissant, qu'est-ce que je peux dire, pas de faire un conservatoire de mes œuvres, mais enfin de les rendre plus logiques, plus de les construire de façon à ce que ça reste, quoi. C'est encore une fois de la pure prétention, mais je fais ça, quoi. Comme le Monde Enfin, effectivement, c'est une suite de nouvelles que j'ai écrites durant 30 ans, de manière très dispersée, sans au départ penser à ce qu'elles soient, elles puissent être réunies. Puis à un moment donné, mais je fonctionne comme ça, par déclic, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai toutes ces nouvelles peuvent être réécrites en partie, réalignées, former une espèce de saga sur la fin du monde et son hypothétique renaissance, quoi, voilà. Donc je fonctionne souvent comme ça, quoi, comme j'ai fait plein de trucs dans ma vie et que j'ai autour de moi une masse de documents. J'essaye maintenant de les réunir de façon logique, quoi, on peut dire ça, hein. Les critiques de cinéma deviennent un gros bouquin. les chansons éparses deviennent des CD, des nouvelles pas prévues au départ pour être assemblées le sont dans un bouquin, voilà quoi.
On va peut-être rester sur cette dernière question. Je reviens au cinéma fantastique, au cinéma de science-fiction. Il fut un temps où c'était quand même plutôt un cinéma réservé à des connaisseurs, des grands amateurs. Est-ce que les choses sont en train de changer? Est-ce que depuis quelques années, essentiellement le cinéma américain, les blockbusters, les effets spéciaux, est-ce que ça a modifié un peu le regard qu'on peut avoir sur ce genre ou pas?
On peut dire que oui, les blockbusters, enfin c'est les gens qui y sont allés, au début c'était pas conçu pour être des blockbusters, hein. Lucas a fait le premier Guerre des Étoiles, presque avec des bouts de ficelle, bouts de ficelle hollywoodien, mais bouts de ficelle quand même. Et puis ça a conquis un public considérable. Pourquoi? Je sais pas, parce que les gens ont envie d'imaginaire, j'imagine, je suppose. Que leur quotidien est trop triste, trop désespérant parfois, et qui veulent s'évader à travers ces films, qui sont effectivement des grandes aventures, très imagées, le défaut étant que les scénarios se réduisent effectivement à quelques lignes, le plus souvent, mais pas toujours. Et donc voilà, c'est maintenant, ce qui était dans les années 50-60 un cinéma, une petite niche réservée à des amateurs, est devenu quelque chose de considérable. Les plus gros succès, les plus grandes entrées qui se comptent par millions de spectateurs, parfois par dizaines de millions dans le monde, c'est tous des films de science-fiction, quoi. C'est La Guerre des Étoiles, c'est Star Trek, c'est quelques autres. Heureusement, il y a quelques autres films qui sortent un peu du moule, mais enfin, c'est ça, quoi. Je pense que c'est le besoin d'imaginaire qui est aidé, qui est supporté par le fait que maintenant, avec l'informatique, avec les images de synthèse, on peut faire strictement n'importe quoi. Je veux dire, on peut créer des centaines de vaisseaux spatiaux, des dizaines de milliers de figurants, des décors extraordinaires, à ce qu'il n'y avait pas. Et c'est marrant parce que, je bavarde beaucoup, hein, mais quand j'étais gosse ou jeune, adolescent, et que je lisais tous ces romans de science-fiction, donc En présence du futur ou Au rayon fantastique, j'imaginais ce que ça pouvait être visuellement. Et je me disais, mais quand c'est que je pourrais voir un film qui correspond à ce que je lis au roman de Van Vogt, par exemple, Alfred Van Vogt, qui faisait des intrigues très compliquées, des décors très imagés. Et puis, à mesure que le temps a passé, j'ai vu arriver ça, donc fatalement, j'étais content, quoi, même si je peux être sceptique sur certains scénarios, mais en général, c'est quand même pas mal, quoi. À quoi on ajoute les films, le sous-genre dit de super-héros, où c'est quand même de la science-fiction, mais avec ces personnages issus des comics de Stan Lee notamment, et qui sont bien aussi, avec toujours, et en plus, un petit côté social, quoi. Les mutants, c'est quand même des gens différents, ils sont rejetés, le gouvernement veut mettre la main dessus, enfin, il y a toujours, il faut pas croire que c'est des imbécilités crasses, quoi, ces blockbusters. Il y en a souvent qui ont un aspect sociologique, voire politique, qui est peut-être un peu sous-jacent, mais qui est très réel quand même. Donc, oui, je suis content.
On va terminer là-dessus. Le thème de ce festival, résistance, résister,
c'est quelque chose quelque chose qui m'a touché beaucoup, parce que résister, c'est la seule chose qu'on puisse faire. S'indigner, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut résister, quoi, contre tout ce qui nous menace, hein, politiquement, écologiquement, financièrement. Et on est un peu dans la merde quand même, il faut dire ce qu'il y a, hein, pour envoyer un mot direct, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Donc, vous, ça m'a intéressé. Voilà, quoi. Et puis le Vercors, bon, encore une fois, je suis vieux grenoblois, mais j'étais tout gosse, hein, mais j'étais né quand même là, en août 44. Hein. Et ça m'a toujours passionné, je ne sais pas comment dire, quoi. Ça fait partie de moi, en fait. Et quand j'étais tout, juste après la guerre... Hein, en 45, peut-être 46, avec mes parents, on allait se promener dans le Vercors, et il y avait cette fameuse grotte, la grotte de Luz, ou je sais pas. Et il y avait encore des casques, des brancards tachés de sang, il y avait encore ça, là. Et ça m'a toujours. Puis après, bon, j'ai lu Jean Prévost, j'ai fait connaissance avec lui, Capitaine Goderville. C'est mes héros, quoi.
Bien, j'aurais dû commencer par ça, mais je vais finir par ça. J'ai oublié de dire que vous êtes né à Bourgoin-Jallieu, ou plutôt
à Jallieu.
J'étais sûr. Oui. Merci Jean-Pierre Andrevon. Merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Dans ce cadre champêtre, c'est bien agréable.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.